La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Trois langues se côtoient dans l'univers de Kateb Yassine. L'arabe, le tamazight, qui est la langue des berbères, et le français, idiome du colonisateur. Le fait d'avoir publié beaucoup dans cette dernière langue avec des éditeurs parisiens ne constituait pas pour lui un reniement. Il considérait même cette langue comme un butin de guerre de ceux qu'on ne restitue pas à la fin des hostilités. Et de fait, son français est tourné vers l'horizon algérien et il a su détourner et augmenter cette langue tout au long d'une vie d'écrivain que nous a raconté lundi son ami et biographe Benamar Médiane. Mardi avec Charles Bonne, nous nous sommes attardés sur les grands thèmes de l'œuvre de Kateb Yassine, sur son rapport à l'avant-garde ou encore sur son admiration pour Faulkner. Enfin, demain, nous parlerons de la réception de cette œuvre à la fois en France et en Algérie, avec d'abord l'écrivaine et sociologue Kaoutar Archi, puis avec l'écrivain et universitaire Yassini Laredj. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du théâtre de Kateb Yassine, nous sommes en duplex de Montréal avec Rabah Soukeal, artiste, docteur en littérature, écrivain, auteur de nouvelles, de poèmes et d'essais, au nombre desquels on compte celui intitulé « L'univers théâtral de Kateb Yassine » chez Arabesque Éditions. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Chez moi, il y a une espèce de, enfin, si vous voulez, de contradiction perpétuelle. C'est que je conçois le théâtre comme un combat, mais un combat au sens très large. Il ne s'agit pas seulement de changer la société, mais la vie, de tous les jours et de tous les instants. Il ne s'agit pas seulement de changer des structures sociales, c'est l'homme lui-même qu'il faut changer. Par conséquent, si on veut ça, c'est très difficile, bien sûr, c'est extrêmement difficile. Et je crois que ça suppose, enfin, du moins chez moi, il faut, en quelque sorte, il faut plonger, il faut descendre dans l'inconscient. Voilà, il y a ça qui est très important. Je n'ai jamais travaillé d'après un plan. Je ne me suis jamais dit, je vais faire ceci et ceci, et la fin sera comme ça, et tel personnage sera comme ça. Non. Je crois, en tout cas, peut-être parce que je suis algérien, et parce que mon monde est un monde qui demande à se constituer, et dont la matière originelle est tellement riche, qu'elle est rebelle à une ébauche trop précise, et qu'elle demande à bouillonner longtemps, avant de, en quelque sorte, de s'échapper.
Et bonjour Rabah Soukeal.
Bonjour.
Alors comment définir, pour commencer, le théâtre de Kateb Yassine ? Dans votre essai, vous ne cachez pas que c'est tout de même un théâtre qui peut être parfois difficile à aborder au premier abord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour présenter comme ça de prime abord le théâtre de cet écrivain ?
Vous savez, il a une particularité, Kateb Yassine, qui passe inaperçu aux yeux de beaucoup, beaucoup d'universitaires. C'est son côté poète. Donc, toute la poésie de Kateb Yassine, enfin, la poésie est une base à partir de laquelle tout jaillit dans l'univers de Kateb Yassine. Et notamment le théâtre. Donc, si on passe pas par la poésie, la compréhension, la sensibilité, on n'arrive pas à pénétrer le théâtre de Kateb Yassine qui, à mon sens, à 70% poétique. Et là, dans l'extrait que vous venez de passer, il parle de l'inconscient et de l'instinct. Et c'est ça, c'est l'écriture poétique. Le vrai poète, moi, c'est un conseil qu'il m'a donné quand je l'ai rencontré à l'âge de 21 ans. Et je l'ai rencontré en tant que poète. Il m'a accueilli chez lui en tant que jeune poète. Et il m'a dit la poésie, contrairement à tout ce qui s'écrit, vient du fond de l'être. Donc à ce moment-là, ne te formalise pas avec les formes ou des choses comme ça. Écris-la comme ça vient. Et j'ai l'impression que cette manière de voir les choses est à la base de toute l'écriture de Kateb. Après, Après, dans des genres littéraires comme le roman ou le théâtre, il s'est inspiré bien sûr de formes assez anciennes ou assez présentes, assez contemporaines, mais à la base, c'est un instinct.
Donc c'est une manière de faire de la poésie, mais simplement par d'autres moyens. Cette poésie, du coup, elle se retrouve formellement dans l'enchevêtrement de plusieurs registres, de plusieurs discours. Ça, on le voit même simplement en regardant les pages des pièces de théâtre écrites par Kateb Yacine.
De toute façon, Kateb... moi, ce qui m'a permis d'approcher son œuvre, d'abord, j'étais un jeune universitaire, donc je n'étais pas encore prêt ni formé en matière de recherche scientifique. J'avais à peine 21 ans, j'étais en deuxième année à l'université d'Annaba à l'époque, mais je dirigeais avec un ami qui enseigne aujourd'hui à l'université d'Alger, Karim Aswan, que je salue chaleureusement. On a créé et dirigé une revue de poésie local, qui s'occupe des poètes locaux. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Kateb Yacine, je suis passé par la poésie, par son regard de poète, avant l'avènement du chercheur scientifique en moi. Donc, à ce moment-là, la poésie, c'est vrai que quand vous parlez de poésie de Kateb Yacine, c'est déroutant. Non seulement son théâtre, mais ses textes narratifs, et puis cette connexion, l'intertextualité, comment dire, en jargon universitaire, on peut passer d'un texte à l'autre, d'une idée à l'autre, et je compare l'univers de Kateb Yacine comme une maison avec des fenêtres et des portes ouvertes et des courants d'air qui passent de partout et vous traversent, et c'est à vous de saisir la fraîcheur de ce qui vous traverse, de ce qui vous touche. Et ça, c'est très, très dur pour un universitaire.
On peut peut-être évoquer aussi des références, puisque vous parlez de poésie. Sophocle, Eschyle, Euripide. Kateb Yacine a raconté qu'il ne connaissait pas les grands maîtres de la poésie de l'Antiquité jusqu'à assez tard, et que en les lisant, à un moment où il a eu la chance et la possibilité de les découvrir, il s'est rendu compte qu'il y avait une filiation naturelle avec eux.
Oui, il partageait réellement l'élément tragique. Hein. Il partageait avec eux. Dans toute sa naïveté, hein, parce que Yacine était quelqu'un aussi de très très naïf, il est resté vraiment un petit enfant, c'est ce qui fait son charme et sa gentillesse, et il a découvert comme un enfant le lien qu'il avait en matière théâtrale avec des gens qui ont vécu plusieurs siècles avant lui. Mmh. Et il a dit, pour moi ça a été un choc émotionnel. Et puis un choc de voir que l'élément tragique, l'individu dans le tragique vient de très très loin. Je ne suis pas à la source de tout ça. Et ça l'a rapproché de plus en plus. Ça l'a conforté et réconforté en quelque sorte dans sa pensée que les humains sont très proches les uns des autres, même s'ils sont géographiquement très éloignés.
Alors justement, il a essayé d'aller au plus près de ses compatriotes, notamment avec sa troupe de théâtre. Ils ont fait des tournées en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Rabah Soukhal, de l'importance que ce théâtre, cette activité aussi de chef de troupe et de metteur en scène, en même temps que d'écrivain de théâtre, qu'est-ce que ça eu comme impact dans sa vie? Qu'est-ce que ça a changé dans son quotidien? En quoi est-ce que c'est aussi une partie de sa biographie que le théâtre?
Oui, c'est une partie très importante qui a été entamée à partir de 73, après la rencontre d'un ami qui travaillait au ministère qui œuvrait au ministère du Travail, M. Ali Zamoum, qu'on salue bien sûr aujourd'hui, qui est un habitant du Djurdjura, et qui a une manière aussi de voir le monde qui est très proche de celle de Kateb Yacine, un révolutionnaire, voilà. Donc lui, Ali Zamoum, dans le film de Kamel Dahan, le réalisateur, Elisa Moum dit qu'il a trouvé en Yassine un véritable patriote et un véritable révolutionnaire. Yassine a, à mon avis, la même chose. Donc, il l'a invité à venir animer une troupe théâtrale, le Théâtre de la Mer. Et Yassine a accepté. Donc, il est revenu en Algérie. Il a pris en charge cette troupe. Et par la suite, malheureusement, il y a eu des problèmes avec les administrations.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Finalement, c'est comme s'il y avait quelque chose de gênant pour le pouvoir de voir Kateb Yassine, comme ça, diriger une troupe de théâtre.
Oui, oui, Yassine, de toute façon, c'est-à-dire, c'est que, enfin, au niveau du ministère, ils ont fait confiance à monsieur Ali Zamoum. Et malheureusement, Yassine ne peut pas être un leader. Il n'a jamais été un leader, d'ailleurs. Il a jamais voulu être récupéré par qui que ce soit. Et j'ouvre la parenthèse parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui essaie de le récupérer après sa mort, hein, mais ça marche pas.
Et qui donc, est-ce qui essaye de le récupérer après sa mort?
Oh, chez les mouvements berbérophones, chez les mouvements arabophones qui le condamnent. Les autres veulent qu'il soit un de leurs amis, un fondateur ou un ami très proche du mouvement berbériste, alors qu'il défendait uniquement juste l'identité berbère. Lui-même, qui est un berbère chéoui, hein, il n'a pas appris le berbère avec des mouvements de berbéristes. Hein. Il le sait depuis longtemps, lui qui, dans toute la tribu, est éparpillé sur l'Est algérien, spécifiquement dans les Aurès, c'est un chaoui. Hein. Mmh. Et en invitant Kateb Yassine, les gens du pouvoir ne se sont pas rendus compte qu'ils ont évité une bombe, un électron libre, quelqu'un, comme on dit en France, de manière triviale, de manière populaire, quelqu'un qui ne ferme pas sa gueule.
On écoute Kateb Yassine à ce sujet.
La troupe du ministère du Travail a fait un tel travail, a eu un tel succès, une telle audience, puisque nous avons touché plus d'un million de spectateurs en 5 ans, que ça a alarmé certaines personnes haut placées, et que, à partir du moment où le ministre du Travail a changé, le ministre qui lui a succédé nous a chassés de nos locaux, privés de nos salaires, et en quelque sorte suspendus pendant un certain temps, et après, comme on ne pouvait pas quand même nous supprimer totalement, puisque nous avions une audience très grande, alors on nous a envoyés à Sidi Belabès, c'est-à-dire à 500 km d'Alger, avec l'arrière-pensée que le groupe se briserait, serait séparé, parce que ça posait des problèmes de logement, de famille, bon. Mais avec le temps, nous avons réussi malgré tout à reprendre notre activité, et toujours sur les mêmes thèmes, les problèmes de la société algérienne, de la vie de tous les jours, tout ce qu'il faut dénoncer, puisque c'est en cela que le théâtre peut jouer son rôle à l'heure actuelle chez nous. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai voulu en arabe populaire et en tamazight. C'est un théâtre que même un enfant pourrait comprendre, qu'un analphabète peut comprendre. C'est-à-dire c'est un théâtre pour le grand public. C'est un théâtre qui est un peu la découverte de l'Algérie par les Algériens à partir de l'indépendance. Puisque jusque-là, nous ne savions pas et nous ne savons pas encore exactement, et jusqu'au bout et jusqu'au fond, ce que c'est que notre pays. Nous sommes en train de le découvrir.
D'un entretien avec Antoine Speer en 1987. Alors, c'est intéressant, Rabah Soukhal, ce que disait Kateb Yassine dans cette archive, faire un théâtre populaire que même les enfants pourraient comprendre, un théâtre vraiment grand public. Il faut qu'on s'attarde un peu sur ce mot et cette notion de populaire, parce que est-ce qu'on peut réellement considérer, étant donné tout de même un peu la difficulté du texte katébien, que c'est un texte qui s'adresse à toutes les catégories de la population algérienne?
Lui, il a eu la chance de se retrouver avec cette troupe qu'il a au début vraiment aidé à... tout était en lui et il avait juste besoin qu'on l'aide à mettre sur place une certaine expression pour transmettre ce qu'il ressentait et ce qu'il écrivait en langue française. Donc il le ressentait dans sa chair et dans sa manière d'être en tant qu'Algérien. et de revenir, c'est un retour à la source. Donc ces gens-là l'ont aidé à vulgariser son théâtre, sa vision théâtrale, pour toucher beaucoup plus un public normalement. Comme il le dit lui-même, hein, j'ai toujours refusé d'écrire pour un cénacle de lettrés. Ça m'embête.
Mais est-ce qu'il ne faut pas comprendre aussi, pardonnez-moi, ce mot de populaire comme un théâtre qui va plonger aux racines du peuple algérien et notamment dans ses mythes et dans ses légendes. Est-ce que ce n'est pas ça, peut-être d'abord et avant tout, que le théâtre populaire pour Kateb Yacine ?
Oui, parce que Yacine, ce qu'on omet de dire, c'est qu'il a, longtemps et profondément été en contact en voyageant avec les cultures de l'Extrême-Orient, notamment au Vietnam.
Il a vécu un petit moment au Vietnam.
Oui. Il a rencontré également l'expression populaire en Russie également. Et donc, il a vu aussi, surtout au Vietnam, qu'il y avait un théâtre qui était très près du peuple, un théâtre qui n'est pas élitiste. Donc, c'est vraiment un théâtre qui allait vers le peuple, qui s'installait au sein du peuple et qui s'exprimait avec la langue du peuple, pour le peuple.
Mais du coup, comment donc, ça se passait pour lui ? Parce que il y a chez lui un côté presque ethnographe, un côté presque historien de sa propre culture qu'on retrouve dans son théâtre.
Ah oui, mais Yacine, il a toute sa vie, comme je l'ai dit, à la base de sa vie, c'est la poésie. Le poète, c'est quelqu'un qui observe, qui note. Donc lui, il a pris des notes tout au long de sa vie. Il était tout au long de sa vie au contact direct avec la rue, avec ce qui vibre. D'ailleurs, l'Akhdar, quand il se fait... il est tué, enfin, il agonise au début du cadavre encerclé. Il dit, je suis en train de rendre l'âme dans cette rue. Dans cette rue qu'il sent vibrer. Mmh. Et donc, c'est vraiment cet espace populaire. Yacine, c'est ça. C'est le poète qui est dans la rue et qui la sent vibrer. Mmh. Mais de manière théâtrale, il se rapproche d'elle, il s'exprime, parce que s'il s'exprime avec la poésie pure, comme il s'est exprimé toute sa vie, avant, en écrivant en langue française, le peuple n'arrive pas à comprendre. Mais s'il vulgarise cette expression poétique et il se rapproche, ça va être beaucoup plus populaire et il va être beaucoup plus accepté par ce peuple pour qui il a jamais écrit, pour qui il a écrit, mais qui ne l'a jamais connu ni compris.
Alors l'Akhdar, il a un ancêtre, hein, ce personnage, comme beaucoup d'autres personnages d'ailleurs de Kateb Yacine, c'est Kebloot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure mythique qui intervient, qui revient souvent dans le théâtre de Kateb Yacine ? Il y a beaucoup de figures d'ancêtres, celui-là en particulier appartenant à la tribu de Nador, qui va du coup être particulièrement présent dans ce théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi il est important, ce personnage-là ?
Oui, donc vraiment, c'est la base de toute relation au sein de la tribu des Kbeltia, ou des... on dit ça, Kblouti, ça se dit pour le singulier, Kblouti, mais le pluriel, c'est les Kbeltia. Donc, cette tribu avait un ancêtre commun, et cet ancêtre a toujours vécu, et je dirais survécu, à travers les récits populaires, et les légendes également. Et donc, il a été magnifié, il a été toujours en contact avec les futures générations par rapport à lui.
On lui prête des pouvoirs surnaturels.
Oui, donc c'est pour cette raison, j'ai dit, ils l'ont magnifié, donc comme la mère de Kateb Yacine, quand il était petit, elle l'a baigné dans cette atmosphère de légende et de mythe. Et donc lui, il a grandi aussi avec cette figure de l'ancêtre qu'il a toujours dans sa tête. Mais dans le théâtre, il faut préciser qui a la figure de l'ancêtre, ancêtre, qui est aussi dans Nejma, dans le roman Nejma, ou dans le polygone étoilé plutôt, et il y a la figure aussi des autres, Kebluti, Kebeltia, qui sont des descendants de l'ancêtre, à ne pas mélanger également. Hein. Mm-hmm. On parle des têtes coupées, de cet épisode qui a marqué à jamais la tribu, qui l'a divisée, qui l'a, par la suite, elle a été éparpillée par l'administration française. C'est juste une tribu rivale qui a assassiné un couple de Français et qui l'a ramené dans le mausolée de la tribu de Katebiassin. Mmh. Alors, donc à ce moment-là, l'administration française a décapité Simal. Simal, et dans le théâtre de Katebiassin, il parle des Simal, des six enfants de Kebelout, qui ont été décapités et qu'il considère aussi comme des ancêtres, hein, par rapport à lui.
Alors ce personnage, enfin ce mythe de Kebelout, il est comparé à un vautour dans l'œuvre de Katebiassin, hein, la figure du vautour revient très souvent. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet un extrait de la pièce « Les ancêtres redoublent de férocité » où on retrouve cette figure du vautour.
« Je veillerai pour vous ravir au serpent du tombeau, à la glaciale sens de la morgue. Et j'espère bientôt m'abattre sur la sauvage. Enfin débarrassé de ces ailes qui m'épuisent. Alors je n'aurai plus à me relever. Ayant cueilli son dernier souffle, tel fut et tel demeure l'unique dénouement que je désire. Rite miraculeux, nuptial et funèbre où c'est le disparu qui ranime et la veuve qui vient au monde une seconde fois.
Drôle d'oiseau, on ne l'avait jamais vu.
Hélas, j'ai beau garder mes distances et demeurer dans mon énigme, j'inspire la terreur. Et pourquoi ne pouvons-nous, sur une même planète, ressentir en commun la promiscuité d'un voyage ?
Trop d'oiseaux. Venu de l'Est, il réside à l'Ouest. Hiéroglyphe solaire, le désert et son juste milieu. À part ça, grand sculpteur de squelettes, le vautour noir et blanc se considère comme un artiste.
N'importe.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous de cet extrait qu'on vient d'entendre de cette pièce de théâtre, Rabat Soukéal? Et puis, d'où vient cette idée qu'on retrouve tout le temps dans le théâtre de Yacine, du couple vautour-ancêtre?
Oui, pas seulement vautour-ancêtre, hein, mais je vais juste expliquer en quelques mots. Déjà, pour revenir à l'extrait, bien sûr, il y a, comme l'ont entendu tous les auditeurs, le théâtre de Katebiassin, le théâtre tragique, il y a base de poésie, ce qui est très très joli à entendre, très beau, et en même temps a une profondeur exceptionnelle également, qui fait de Katebiassin un élément unique dans le paysage théâtral algérien, toute langue confondue, et puis au niveau du théâtre d'expression orale. Mmh. Et pour revenir à la figure de l'ancêtre, il n'est pas seulement vautour. Hein. Bon, Katebiassin, quand il était enfant, il partait avec sa mère à Constantine, en bas, au bord de la rivière du Rumel. En bas à Constantine, il y avait un mausolée de Sidi M'Sid. Et donc, on faisait la Zerda, c'est des fêtes de célébration en l'honneur de cet ancêtre-là, de ce marabout. Et bien sûr, on faisait des sacrifices. Des sacrifices de coqs, de moutons, de chèvres, etc., de taureaux, etc. Et après, on mettait des morceaux de viande sur des rochers pour inviter des vautours qui nichent dans ces falaises, pour les inviter à manger et à festoyer. Donc l'élément de l'animal qui vient festoyer et participer à la célébration avec les humains.
Donc il y a quelque chose d'autobiographique aussi, d'un souvenir d'enfance finalement dans l'utilisation du vautour.
C'était en Kabylie, oui. C'était vers Sétif, non loin de Borj-Boréréj. Et à ce moment-là, il y a un paysan qui a offert au père de Kateb Yassine, qui était qui avait comme profession un wakil judiciaire, donc une sorte de d'avocat et en même temps un juge dans la tradition musulmane, qui a été mandaté par l'administration française pour régler les litiges entre les autochtones musulmans. Et donc à ce moment-là, pour le remercier, ce paysan lui donne un petit vautour, un petit plutôt aigle, un genre d'épervier ou de faucon, et il lui a donné pour le remercier. Donc il l'a ramené avec lui, il l'a offert à Yassine. Mais Yassine a eu le privilège, le triste privilège de voir ce vautour se bagarrer contre la faim, contre l'enfermement et mourir de faim plutôt que de concéder la moindre parcelle de sa liberté.
Oui, parce qu'il est mort de faim alors même qu'il était nourri, c'est-à-dire que c'est finalement par fierté que ce vautour a
décidé de mourir. Non, il a refusé la nourriture.
Exactement.
Hein. Yassine, il le dit, hein, il a refusé la nourriture. Et Yassine, enfant, il a été marqué par ce caractère féroce plutôt, revêche de cet animal qu'il ne connaissait que dans les airs. Après, quand il a grandi, il l'a associé. Il trouvait la figure magnifique, il l'a associé avec l'ancêtre, la figure de l'ancêtre. D'ailleurs, Yassine lui-même, quand il allait chez son ami Madame Jacqueline Arnaud, il n'était pas loin du parc de Vincennes, et il allait admirer les vautours à longueur de journée, il s'ennuyait jamais.
Est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a dans la glorification de ces ancêtres-là, dans la magnificence avec laquelle il les décrit, et l'admiration qu'il a pour eux, quelque chose de son rapport à l'Algérie?
Oh, certainement, oui, certainement, parce que dans le cas de Kateb Yassine, on part du microcosme au macrocosme. Hein. Donc lui, il part de la cellule familiale, et après le clan, et après la tribu, et après la nation. Donc il a gravi les échelons petit à petit, il a découvert petit à petit, depuis le bas âge jusqu'à adulte, il a découvert le monde de cette manière-là, par fenêtre ouverte petit à petit. Et donc à ce moment-là, lui, il associe certainement les ancêtres à la gloire générale, parce que le cas de Kateb Yassine dans sa tribu s'est vécu aussi avec d'autres tribus dans d'autres régions de l'Algérie. Hein.
On va continuer de parler de tout cela avec vous, et notamment du rapport de Kateb Yassine avec l'histoire. Rabah Soukhal, vous restez donc avec nous, mais pour l'heure, c'est le moment d'aller voir ce qui s'écrit du côté des revues de littérature.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est avec vous que nous le faisons aujourd'hui, Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, beaucoup de choses hein, ce mois-ci, j'ai envie de dire comme tous les mois, hein, dans la Nouvelle Revue Française. Comme par exemple, une note de lecture sur le livre de Yannick Enel, dont on a d'ailleurs parlé ici il y a quelques semaines, La solitude de Caravage.
Oui, quand on est un lecteur un peu fidèle de Yannick Enel, on n'est pas très étonné qu'il se soit intéressé au cas de... du Caravage, parce que c'est une figure possible de l'incarnation, et l'incarnation est par ailleurs le thème central d'un livre qu'il vient de faire paraître aussi avec ses deux compères de Ligne de Risque, Valentin Rey et François Méronis. Donc il y a une cohérence dans tout ça, une continuité, et je crois que c'est tout à fait une bonne nouvelle qu'un pour les lecteurs, qu'un écrivain, un jeune écrivain, investissent sans demander la permission, et je dis ça naturellement au bon sens du terme, à l'institution artistique, enfin, qui est d'histoire de l'art, qui est censée donner la version conforme. Et dans le cas de Caravage, évidemment, c'est tout à fait différent.
C'est la jeunesse qui célèbre la jeunesse.
Oui, et puis il y a une présence du corps chez Caravage qu'on ne retrouve pas, sinon peut-être chez Rubens. Enfin, mais encore, Rubens c'est tout à fait autre encore. Donc il y a quelque chose là de très fort qui ne pouvait pas ne pas intéresser, je crois, Yannick Hanel.
Alors un autre jeune écrivain, bon, tous ces jeunes sont mis entre guillemets quand même. Oui. C'est Tristan Garcia, vous voulez nous en parler?
Oui, parce que Tristan Garcia a joué le jeu d'une façon très très fair-play, je dirais, parce qu'il avait beaucoup de travail et je lui ai proposé d'écrire un peu autour du thème de la fin du monde. Et il a hésité, les délais étaient terribles, mais il a joué le jeu et il l'a admirablement joué, je trouve, en évoquant finalement la fin du monde comme une réalité presque géologique et qui se répète. Il n'y a pas une fin du monde, il y en a des dizaines qui se sont succédées, qui ne cessent de se succéder en réalité depuis la nuit des temps. Donc il a su, dans son texte, faire résonner cette espèce de vertige de la matière à travers le temps. C'est très fort.
Et puis toujours dans cette tranche d'âge, on pourrait citer aussi Aurélien Bélanger qui vous livre une histoire personnelle du roman scientifique. C'est dans un dossier que vous avez constitué et qui s'appelle « Science et roman, les nouvelles histoires ». Vous voulez nous en dire un mot aussi?
Oui, c'était l'occasion, alors c'est un sujet aussi difficile, périlleux, de se demander dans quelle mesure le domaine scientifique, dans ce qu'il peut avoir aujourd'hui de vertigineux, et on a l'impression de vivre au 19e siècle alors que l'actualité scientifique, elle, est déjà au 22e ou 23e siècle. Enfin, donc il y a là un décalage étrange qui doit pouvoir intéresser et concerner les écrivains. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire là avec ce numéro.
Alors tout cela est évidemment à lire dans la NRF et je renvoie nos auditeurs sur le numéro de juin et puis le numéro de mai qui est aussi toujours disponible en librairie. Merci beaucoup Michel Crépu.
Merci.
Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, troisième volet de notre série consacrée à Kateb Yacine. On parle aujourd'hui de son théâtre, Kateb Yacine, l'amoureux éternel de Nejma.
Je suis tombé amoureux d'une cousine, comme il se devait. Là, c'est toujours le poète tribal qui remonte à la surface. D'ailleurs, beaucoup de gens chez nous tombent amoureux de leur cousine, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais enfin, c'était la grande passion qui a duré près d'un an. Elle s'appelle Nejma. Bon, cette chose a été très riche aussi, parce qu'il y avait une contradiction. Évidemment, lorsque, en tant que poète, on découvre une chose comme l'amour, bon, évidemment, ça mène très loin. Mais, d'un autre côté, il y avait l'action politique, qui supposait un certain réalisme, qui supposait que, même jeune, j'avais 16 ans, il fallait que je me conduise comme un homme, et que je ne sombre pas dans le gouffre de la passion, corps et âme, mais que je continue à militer, ce qui était vraiment très difficile. Bon, il fallait effectivement sacrifier l'un à l'autre. J'ai donc sacrifié Nejma à la Révolution et j'ai rompu.
Alors, Nejma, Rabah Soukhal, c'est la source, dit-on, de toute l'œuvre de Kateb Yacine. C'est donc aussi, évidemment, le cas pour son théâtre.
Oui, effectivement, je suis content parce que, juste pour anecdote, moi je suis de Bonn, hein, d'Annaba. Donc je suis natif de la même ville que Nejma, où est venu Kateb Yacine à l'âge de 16 ans, après son renvoi du lycée Albertini de Sétif, durant des événements. Il a été envoyé par son père chez des cousins à Annaba, où il a rencontré... Enfin, il a eu le coup de foudre pour sa cousine, oui.
Est-ce que vous avez rencontré vous-même Nejma, alors, à Bonn?
Non, mais j'ai eu le privilège de voir le mari, parce que figurez-vous que durant ma vie, à Annaba, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, J'ai eu l'honneur de connaître des gens qui connaissaient le mari de Nejma, et même un des personnages de Kateb Yassine, Mustapha, oui. Mustapha qui est dans Nejma, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, qui s'appelle Mustapha Djundi. Et c'est un ami de Kateb Yassine de longue date, des années 40, quand il a débarqué à Bonn, hein, à l'époque. Et donc, Nejma, c'est... comment dirais-je, c'est l'explosion poétique. Donc, il avait un certain niveau de poésie, lui, mais avec l'amour, il a, d'ailleurs, il le dit dans sa poésie, quand il a découvert Nejma, c'est le centre, et autour, il errait. Donc, il n'arrivait plus à trouver un chemin. Donc, il était frappé de plein fouet par les flèches de Cupidon. Et donc, à ce moment-là, Nejma a pris de l'ampleur comme la figure de l'ancêtre. Par la suite, on sait qu'est-ce qu'elle est devenue, la femme idéale, la grande figure de l'Algérie dans la poésie, dans l'univers de Kateb Yassine.
Et alors du coup, son mari, que disait-il de l'espèce de figure comme ça littéraire qui était devenue sa femme, Nejma?
Bon, c'est vrai que c'est un volet assez... assez personnel, mais par la suite, je sais que elle a divorcé et elle est allée vivre en France quelque part, pas à cause de Kateb Yassine, hein, mais je crois que c'était un mariage qui est arrangé, qui était voué à l'échec, mais c'est une dame qui avait beaucoup beaucoup d'affection pour Kateb Yassine, et je crois que le mari s'est toujours tenu à l'écart de cette histoire, hein. Donc c'était quelqu'un de très effacé, moi, quand je l'ai entreaperçu dans le quartier de la colonne Rondon, là où habitait Nejma. C'est un quartier d'Annaba, tous les gens, les Bonnois, le connaissent. Et quand je l'ai vu, on me l'a montré. D'ailleurs, c'est un ami, un auteur dramatique, Boubacar Mahour. Il est mort depuis. C'est lui-même, d'ailleurs, qui m'a donné l'adresse de Kateb Yassine. Il m'a dit, va le voir. Et c'est lui-même qui me l'a montré. Il m'a dit, tu vois le petit bonhomme là avec le couffin? Je dis oui. Il m'a dit, tu vas pas me croire. C'est le véritable mari ou l'ex-mari de Nejma.
Mais alors Nejma, c'est la femme fatale, c'est celle qui va inaugurer tous ces personnages qui sont des amoureux déçus. Parce que l'amour possible, c'est l'amour de Kateb Yassine. Il n'y a pas tellement d'amour qui ne soit un échec sentimental dans son théâtre.
Oui, certainement, parce qu'il y a toujours une issue tragique à ce sentiment. Yassine, quand il a rencontré l'amour, il l'a rencontré une seule fois et définitivement, hein. Donc, il le dit lui-même, hein. Il a aimé une seule femme dans ce qu'on appelle l'amour charnel, le sentiment, hein, pas l'amour maternel ou autre chose, parce que la seule femme qui ait jamais compté dans sa vie, c'est bien sa mère, hein. Il y a aucune autre, hein. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Et je défie quiconque qui me dira le contraire, parce qu'elle est à la source de tout. C'est la seule femme qui a subjugué Yassine depuis le début jusqu'à sa mort. Et Nejma, en tant que femme, comme il débouchait sur une catastrophe sentimentale, parce qu'il était tiraillé entre le pays en guerre et d'aller filer le parfait amour avec cette cousine. Il le dit lui-même, hein, il a choisi la révolution, d'où le thème, les deux thèmes récurrents chez Kateb Yassine. D'ailleurs, ça apparaît dès 46-47 dans le poème qu'on considère comme une matrice de l'œuvre de Kateb Yassine, c'est Nejma ou le poème ou le couteau. Donc, il y a toujours l'amour et la révolution, le combat. Le combat et l'amour, c'est une dualité terrible. Et d'après moi, il a été déjà achevé par l'amour avant de livrer combat à qui que ce soit.
Je crois que la grande force de Kateb, c'est de s'arracher, si l'on peut dire, à ce qu'on peut appeler la culture occidentale traditionnelle. La force de son théâtre, c'est qu'elle nous oblige, nous autres Français, en particulier Européens, d'une manière plus large, elle nous oblige à être vus par les autres étant le tiers-monde. Je crois que jusqu'à maintenant, l'humanisme était synonyme d'homme occidental. Le terme humanisme, dans les esprits, en tout cas dans les cercles parisiens ou les cercles européens de théâtre moderne, était tout de même assez limité à une idée qui restreignait la notion d'humanisme au seul et unique monde chrétien occidental. La force des auteurs comme Kateb, c'est brusquement de nous ouvrir d'autres visions de l'histoire, et ça n'est pas par hasard si ces nouvelles visions coïncident avec la décolonisation.
Alors vous avez peut-être reconnu Rabah Soukéal, la voix de Jean-Marie Serrault, le metteur en scène. C'était dans un entretien avec Moussa Abadi qui date de 1967. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que pour vous, Kateb Yassine a réussi à retourner le regard des Français, le regard des Européens?
Ben écoutez, c'est toute, comment dirais-je, c'est toute la réflexion d'un génie de la mise en scène et du théâtre comme Jean-Marie Serrault. Il disait, hein, quand il a lu Kateb Yassine, il a eu le même choc que Kateb Yassine quand il a eu Échille, Sophocle et Euripide. Il a été subjugué par le verbe de ce poète et par sa vision du monde. D'ailleurs, il le dit, Monsieur Serrault, en 58, il déclarait que la chose suivante, Sophocle définissait la tragédie comme la mise à nu du destin. Chez Kateb, elle est la mise à nu de l'histoire, ou plus précisément, la mise à nu d'un homme dans l'histoire du monde.
Mais quelle histoire, c'est ou tout. Plutôt quelles histoires, parce que c'est à la fois l'histoire un peu immémorielle, et puis donc l'histoire des tribus dont on parlait tout à l'heure, des mythes, des ancêtres légendaires, et puis c'est une histoire plus proche, l'histoire des différentes colonisations de l'Algérie, jusqu'à l'histoire qui est contemporaine du moment de l'écriture.
Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit dans ma recherche sur l'univers théâtral de Kateb. J'ai dit, il y a une histoire, l'histoire prend différentes facettes. Il y a l'histoire qu'on connaît avec un grand H, l'histoire collective, l'histoire tribale. C'est toujours, toujours partir du microcosme au macrocosme ou du macrocosme au microcosme. Dans le cas de l'histoire chez Kateb Yassine, il part d'une histoire individuelle, personnelle. Il passe à l'histoire familiale, l'histoire tribale, l'histoire de la nation, qui est une histoire collective. Et après, l'histoire, avec un grand H, l'histoire mondiale de l'individu au sein du monde. Voilà.
Donc c'est aller vers l'universel, c'est cela?
Voilà, c'est ce qui a abouti avec, par exemple, un volume théâtral exceptionnel comme « L'homme aux sandales de caoutchouc » pour rendre hommage à Ho Chi Minh. Il embrasse beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde, de visions du monde, d'individus également. Il passe de la Nouvelle-Orléans, du bord du Mississippi au Vietnam, du Vietnam à l'Afrique, de l'Afrique du Nord au Sud, à la France. Il est subjugué par l'individu qui se bat constamment contre les éléments et contre son semblable pour améliorer ses conditions. D'ailleurs, il le dit, Kateb, il dit « Notre théâtre est un théâtre de combat dans la lutte des classes. On ne choisit pas une arme, son arme. Le théâtre est la nôtre. Il ne peut pas être discours. Nous vivons devant le peuple ce qu'il a vécu. Nous brassons 1000 expériences en une seule. Nous poussons plus loin, c'est tout. Nous sommes des apprentis de la vie. »
Donc là, on est presque...
Kateb, pour lui... Oui, excusez-moi.
On est presque dans le thème de la révolution. C'est-à-dire, pour Kateb Yassine, faire du théâtre, rien que le fait de mettre en scène, d'écrire des pièces, c'est déjà faire un peu la révolution.
Kateb Yassine, c'est ça. Lui, il a été nourri au sein de la Révolution française. C'est peut-être quelque chose qui apparaît comme une anecdote ou d'invraisemblable pour ceux qui ne connaissent pas Kateb Yassine, qui le voient de l'extérieur comme un ennemi de, des Français ou des choses comme ça, ben, ça n'a, ou la langue française, butin de guerre, qui ont malmené tout ce qu'il a dit, ils l'ont placé dans des contextes, ils l'ont sorti de hors de contexte. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Yacine lui-même, c'est la Révolution française qui l'a subjugué.
Mais il a écrit une pièce sur Robespierre, d'ailleurs.
Oui, la dernière, oui. Enfin, entre autres, avec le texte qu'il a écrit pour honorer également le travail de Mandela et puis toute la résistance sud-africaine, un pas en avant, trois pas en arrière, qui est un texte magnifique, inédit. Il a été publié juste avant sa mort dans des cahiers de l'immigration, tenu par le Centre culturel algérien à Paris. Et toujours cette vision de la révolution, Kateb, il se définit lui-même comme, il l'a dit hier Charles Bonne, mais il a un peu enlevé l'essentiel. Et Charles Bonne a dit le perturbateur au sein de la perturbation, mais il a oublié un mot avant, c'est le poète et l'éternel perturbateur au sein même de la perturbation. Donc c'est toujours Yacine associé à la poésie. Et pour lui, la poésie sert également à améliorer la condition de l'être humain, à changer des choses.
Mais la poésie peut aussi être politique, la poésie peut aussi servir une approche politique du théâtre. Est-ce que, par exemple, on peut aller jusqu'à employer le terme de marxisme pour définir la démarche en termes de théâtre de Kateb Yacine, ou est-ce que ça va trop loin ?
Ben écoutez, Kateb Yacine, je sais déjà qu'il est communiste convaincu. Hein. Il est communiste, il le revendique. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un de très, très clair là-dessus. Il n'a jamais caché sa sympathie pour les communistes. Enfin, pour le communisme plutôt. Mais il était en désaccord avec plusieurs visions de communistes, hein, notamment les soviétiques. Il n'aimait pas spécialement la vision du parti à l'époque au pouvoir ou des partis successifs qui se sont installés au pouvoir en Union soviétique. Mais le communisme, c'est vrai que ce que vous dites comme idéologie, Kateb Yacine a trouvé en cela une manière aussi de voir l'individu, de se rapprocher de l'individu. Moi, Kamel Dahan, le réalisateur qui a réalisé le film sur Kateb Yacine, me disait l'autre jour que Kateb lui disait « Moi, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour m'habiller ou des choses comme ça. Je compte sur la fraternité internationale. » C'est ça. Pour Kateb, être avec d'autres gens, c'est partager. C'est partager, c'est ne pas se soucier quand il y a quelqu'un qui peut vous enlever une épine du pied. Donc lui, en tant que poète, en tant qu'écrivain, sa mission c'était ça, servir l'autre, surtout dans le théâtre. Hein.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours de Kateb Yacine avec vous, Rabah Soukhel, en duplex de Montréal. Vous avez dû voir du coup un nombre incalculable de mises en scène de pièces de Kateb Yacine. Lesquelles vous ont marqué ? Est-ce que vous avez vu par exemple celle de Jean-Marie Serrault ? Est-ce que vous avez vu celle d'Alain Olivier ?
Ben, celle de Jean-Marie Serrault, c'est vrai que quand elle a été présentée, je venais de naître.
Oui, c'est sûr, c'était difficile pour vous. Mais je me disais que peut-être vous aviez vu des DVD ou des vidéos.
J'ai vu des extraits, c'est vrai, sur YouTube, il y a quelques extraits. Bon, je connais, par le biais des révélations de Kateb Yassin et d'autres, hein, notamment Aimé César, tout le monde connaît, enfin tout le monde, les gens qui s'intéressent au théâtre connaissent le trait de génie chez Jean-Marie Serrault, de dénicher des auteurs magnifiques et de monter des pièces magnifiques. Et moi, personnellement, j'ai été beaucoup plus en contact, comme le théâtre de mon ami, dont mon défunt ami, Boubacar Mahour, qui connaissait Kateb Yassin. C'est grâce à lui que j'ai connu Kateb Yassin. Donc lui, il allait dans cette même direction. Kateb Yassin, à la base, à mon avis, il a influencé énormément de jeunes auteurs en Algérie, des dramaturges, hein, énormément.
Et
il ne le sait pas lui-même. Hein.
Y compris vous qui vivez au Canada, dans la communauté francophone canadienne, est-ce que vous avez retrouvé un peu des influences de ce grand écrivain?
Ben écoutez, les influences, ça c'est difficile parce que, comment dirais-je, Kateb Yassin, c'est quelqu'un qui a été lu par beaucoup de gens, et notamment des gens qui ont écrit. Mais les influences, il y a des gens qui l'ont imité certainement, mais il a influencé des gens, comme disait Khatibi, comme disaient les écrivains russes à l'époque, on descend tous du manteau de Gogol, nous on descend tous du manteau de Kateb Yassin.
À ce point-là
Oui, c'est qu'il a influencé de manière déjà esthétique la littérature, de manière très très profonde. Il a chamboulé tout avec, bien sûr, un autre écrivain à côté, Monsieur Mohamed Dib, qui, à partir de 1962, a donné la pleine mesure à une écriture exceptionnelle et inventive et novatrice. Kateb Yassin, c'est vraiment le perturbateur au sein de la perturbation. C'est un ouragan qui est arrivé, qui a tout changé. Et même quand il a abandonné l'écriture pour se consacrer au théâtre dialectal, il a influencé énormément de jeunes qui sont venus à travers le pays, là où il s'est déplacé avec sa troupe, qui sont venus voir le théâtre. Et c'est grâce à lui, s'il y a eu des gens qui se sont inscrits, qui sont devenus des comédiens, des écrivains dramaturges, des metteurs en scène, qui se sont ouverts au théâtre et à la littérature. Mais vous ne pouvez pas savoir, même lui, il ne le sait pas, hein, l'influence considérable qu'a eu ce monsieur, et qu'il a toujours, hein, sur nous, de manière générale.
Oui, il y a une espèce de capacité d'ensemencement de Kateb Yassin, et on le sent très bien en lisant son théâtre et sa prose aussi, parce que c'est si particulier que on a envie, j'imagine, de s'en inspirer et de créer à partir de la sonorité, du rythme de Kateb Yassin. On se dit aussi en lisant son théâtre que ça doit pas être facile à monter quand même. Est-ce que vous avez vu des mises en scène particulièrement réussies, et qu'est-ce qui fait qu'on réussit bien finalement à faire passer le texte de Kateb Yassin?
Mais écoutez, enfin, à ma connaissance, bon, il y a des gens qui ont monté des pièces de théâtre de Kateb Yassin, qui ont essayé également, que ce soit au Liban, en Égypte, qui ont traduit Kateb Yassin. D'ailleurs, en Égypte, il a eu à titre posthume, en 91, un grand prix littéraire, hein, décerné par les autorités culturelles égyptiennes, pour dire que Kateb Yassin, même traduit dans d'autres langues, il a été monté, son théâtre a été monté, apprécié et joué. Mais d'après moi, comme...
Assez rapidement, parce qu'on arrive à la fin.
Voilà, d'après moi, il n'y a que Jean-Marie Serrault qui a pu vraiment déceler le mouvement interne très particulier à ce poète. Hein,
mais on espère qu'il y aura d'autres metteurs en scène qui vont bientôt s'emparer de cette littérature.
Je leur souhaite bonne chance. Hein.
merci beaucoup, Rabah Soukair.
Je vous en prie.
Z
Je rappelle que vous êtes spécialiste de littérature algérienne et française, Rabah Soukéal, mais également poète et peintre. Votre livre « L'univers théâtral » de Kateb Yacine, source et analyse, dont nous nous sommes servis pour préparer cette émission, a été publié par Arabesque Éditions en 2006. Une émission qui n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Pascal Baudin. Merci également à nos amis de Radio-Canada qui ont rendu ce duplex possible. Demain, dernier épisode de notre série Kateb Yacine. Nous parlerons de la question de la réception de son œuvre en France et en Algérie, mais également de Camus et plus généralement de la langue française. Tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. On est les pieds sur terre, puisqu'on est très haut, là-haut, spirituel sans le vouloir, au nord, encore plus au nord, dans les Pays-Bas. On s'élève forcément par la poésie dans les Pays-Bas. Prenez par exemple une station de lavage, ce qu'il y a de plus terre-à-terre, ce qu'il y a de plus moche aussi. Et appelez-vous pour l'occasion Ingmar Heidse. Vous êtes invité au marché de la poésie, et voilà ce que ça donne, traduit du néerlandais. Il n'y a pas de vie dans cette station, mais du mouvement. Hormis l'homme en salopette qui a encaissé l'argent, indiqué la piste et disparu dans la nuée. À l'autoradio près, tu es seul. C'est un bon moment pour préméditer un meurtre ou commencer une religion. Il y a des brosses, des jets d'eau et des rideaux flottants. Des derviches bleus émergent des coulisses, s'ébranlent, pirouettent vers toi avec leurs membres en peau de chamois paniqué. L'eau de rinçage tambourine et flagelle pare-brise et carrosserie. Peut-être qu'ici et maintenant, on te sert la véritable existence. Un univers bouillant et mécanique, où le vent et l'eau ont les mains libres, manigancés par une certaine absence. Un tunnel que tu traverses à la dérive au ralenti et dont tu surgis comme une lumière antique, rayonnant. Et nous allons chercher un poème de Beno Barnard dans le service de mariage. Beno Barnard que nous avons écouté hier dans la taupe. Là, une anecdote de peu. Je me gare près de l'église de N, en face de la banque, m'apprêtant à sacrifier aux irritants rituels du capitalisme tardif. Quand, à l'entrée du cimetière, j'aperçois des mots noirs sur un placard jaune. Je gèle sur place au soleil. Réjoui, la grille grince, personne ne se retourne. La nuit passée, des éclairs ont terrifié le chien. Vacarme céleste qui échappe à son cerveau atavique de loup, tandis qu'en moi, un homme de jadis redoutait la vengeance d'un fou, barbu brandissant un marteau. Grandiose court-circuit tout là-haut. Mais revenons à N. Impression qu'un aiguillon de soleil tatoue une phrase effarante sur le dos de ma mémoire. Toute tombe caduque peut être vidée sans frais. Signez votre commune. De l'autre côté, la banque ricane, mon crâne carillonne. Quand donc une tombe est-elle caduque? Qui l'occupe? Pourquoi un refroidi devrait-il dégager? Sous le lit, le chien gémit. Dehors, le clocher s'éboule. Au pied levé, le fonctionnaire habilité explique « Ben, monsieur, on fait jamais que recycler des eaux. »
Jacques Bonafé qui nous lit cette semaine des poètes des Pays-Bas.